C'est un phare, une torche, c'est un flambeau, un brûlot.
La Première Guerre mondiale a été causée en premier lieu par le dévergondage nationaliste de la presse et que sans la presse, Hitler aurait été impuissant.
Prénom ?
Karl.
Nom ?
Krauss.
Naissance ?
28 avril 1874 en Bohême, qui appartient alors à l'Empire austro-hongrois. Sa famille rejoint la capitale en 1877. Il sera dorénavant viennois.
Religion ?
Il est de famille juive, mais il dit « Chacun en naissant a assez rempli ses devoirs envers sa race ». Il est carrément anti-sioniste et pour lui, la bonne solution, c'est l'assimilation.
L'écrit ?
La fondation de Die Fackel, la torche, le flambeau, c'est 1899. C'est une revue sans nulle publicité, parution aléatoire quand ça paraît nécessaire, avec la taille variable qu'exige le moment. L'exact inverse de la grande presse qui sera toujours son ennemi numéro un.
La scène.
Il s'y produit pour des lectures publiques très courues, où il déclame, proclame, chante ses textes ou d'autres, par exemple les opérettes d'Offenbach, dont il propose des réductions pour une voix, la sienne, et un piano. 700 lectures publiques au total.
1914.
Il va donner de la Grande Guerre une immense fresque, Les derniers jours de l'humanité, qu'on peut représenter, dira-t-il, en 12 heures ou aussi bien en une semaine. Auteur d'aphorismes qui explosent en peu de mots, il est capable aussi de gigantisme.
1933-1934.
La prise du pouvoir par Hitler rapproche la perspective de l'Anschluss, l'absorption de l'Autriche par le Grand Reich. Krauss y est violemment hostile. Il rédige en 1933 un livre fleuve contre le nazisme, mais renonce au dernier moment à le publier.
Sa mort ?
12 juin 1936, dans un relatif isolement.
1938 ?
L'Anschluss est arrivé. Sa bibliothèque, ses papiers, son imprimerie seront saccagés par les nazis.
1952 ?
La publication, enfin, de son grand texte contre le nazisme, la troisième nuit des Walpurgies, permet de lui rendre une dernière justice.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Mais c'est pas moi qu'il faut entendre, c'est notre personnage. Le voici. Écoutez tous, c'est le grand imprécateur.
Nie darf ein Blick von Tränen übermann ein Wort wie dieses von Immanuel Kant. Bei Gott, kein Trost des Himmels übertrifft die heilige Hoffnung dieser Grabes.
Bon, Krauss utilise un allemand qui n'est qu'à lui et que je renoncerai à traduire. Le grand proférateur, à l'abri d'Emmanuel Kant, on a entendu son nom, énonce quelques pronostics sinistres. Quand nous serons tous dans nos tombes et qu'il fera noir pour nous, ce sera peut-être temps, ironise-t-il, d'imaginer un meilleur avenir. Cet enregistrement date de ses dernières années, 1934, à Prague. Il est né en Bohême, il passe du temps dans le château en Bohême de son ami de cœur, la baronne von Berutin, et Prague est un des trois angles de son triangle habituel. Avec Berlin, capitale de plus en plus moderne d'une Allemagne devenue puissance industrielle, mais où il s'est fait beaucoup d'ennemis, et Vienne, évidemment. Vienne, où il ne néglige pas non plus de se faire détester, mais où il cherche encore davantage à se faire admirer. La Vienne que décrit Stefan Zweig, son contemporain.
L'endroit où se faisait le mieux notre instruction des choses nouvelles, c'était le café. Pour comprendre cela, il faut savoir qu'à Vienne, les cafés constituaient une institution d'un genre particulier et qui ne peut être comparée à aucune autre dans le monde entier. C'était des espèces de clubs démocratiques accessibles à tous, pour le prix modique d'une tasse de café, et où chaque hôte pouvait demeurer pendant des heures, discuter, écrire, jouer aux cartes, recevoir sa correspondance, et surtout, absorber le contenu d'un nombre illimité de journaux et de revues. Dans un bon café de Vienne, on trouvait tous les journaux viennois, et non pas seulement les viennois, mais ceux de tout l'Empire allemand, les journaux français, anglais, italiens, américains, et de plus, toutes les plus importantes revues d'art et de littérature du monde entier. Ainsi, nous savions tout ce qui se passait dans le monde, et cela de première main. Nous étions renseignés sur tous les livres qui paraissaient, sur toutes les représentations, en quelque lieu que ce fût. Et nous comparions entre elles les critiques de tous les journaux.
Les journaux, oui, seront la nourriture quotidienne de Karl Kraus, sauf qu'il la vomira. Parce que pour lui, la grande presse est rivée à des intérêts dissimulés, elle ne cherche pas la liberté qu'elle prétend incarner, au mieux, elle est prête à changer de maître. Et pire, elle dégrade la langue. Les journalistes emploient par exemple le même mot pour désigner des réalités différentes. Les journalistes, c'est l'inverse des écrivains. En 1899, Kraus fonde Die Fackel, la torche, le flambeau, avec l'aide de son père, qui lui sera précieuse ensuite par l'héritage qu'il lui laisse. Il n'aura pas à gagner sa vie, ni à chercher de publicité pour sa publication. Il la fera paraître quand il sera prêt, au format qui conviendra, peu de pages ou beaucoup de pages. En ce début du XXIe siècle, lorsqu'on croira réinventer l'information par le net, on fera souvent référence à Kraus, qui paraîtra comme un pionnier de la libération des formats imprimés. Entre 1901 et 1911, il fait appel à des collaborateurs extérieurs, comme dans une revue traditionnelle. Mais là encore, Libération, le quart de siècle qui va suivre, il fera tout seul. Notre témoin, Georges Banu, le plus grand de nos écrivains de théâtre et qui nous vient de Roumanie, de l'autre côté de l'Empire austro-hongrois.
Son œuvre, c'est la revue, Le Flambeau, un titre... On ne peut pas plus symbolique le flambeau. Le flambeau, on ne sait pas vers quelle direction, mais le flambeau.
Oui, mais on peut traduire aussi la torche.
Ou la torche, oui.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais la torche aussi brûle. Vous savez, moi je suis de la génération où l'art moderne, le théâtre moderne a découvert la torche. Et la torche était justement dans les spectacles de Brooke, d'André Engel, d'André Sherban. La torche était la lumière dans la nuit, mais une lumière vitale. C'était le cas de Kraus. Et en même temps... C'est vrai que ces textes, sa liberté à l'égard des contraintes de la presse, je pense que l'originalité vient de là. Il était le seul auteur et il disait « c'est pas la peine d'avoir un calibrage de pages fixes, c'est pas la peine de paraître à des dates précises. Au fond, chaque numéro était une œuvre d'art. »
Le compositeur Schoenberg a un mot cruel. Sachant parfaitement au fond de lui qu'il fait partie de ces journalistes qu'il méprise, Kraus va forcer le public à le prendre pour un artiste.
Karl Kraus n'a que faire des formats imposés. Sa revue peut être mince, aussi bien qu'épaisse. Il aime les contraintes de la brièveté. Monsieur Lebrun ?
Pendant une quinzaine d'années, en effet, il va s'essayer à des formes très courtes en parallèle de la revue, des aphorismes, des dires aussitôt corrigés par des contredires.
Moi, j'étais étonné, enchanté quand j'ai reçu ton appel pour me proposer de parler de Kraus, parce que j'avais à mon chevet les aphorismes de Kraus achetés il y a quelques mois à la librairie Michel Ignazy, que je lisais de temps en temps, comme les aphorismes, c'est-à-dire que on ne lit pas d'un bout à l'autre, on plonge. Mais en même temps, ces aphorismes ont besoin plus de la lumière du coucher du soleil que de la nuit. Et donc, moi je les avais, je les prenais de temps en temps, et d'habitude, quand quelqu'un vous appelle, vous dites « Ah là, j'ai ce livre, mais je ne sais pas où il est parce que ce n'est pas trop organisé. Mais celui-là, je l'avais. Et donc, c'est peut-être New Age, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est simplement une cause. Je pense qu'il y a... Il y a des choses plus secrètes qu'on ne maîtrise pas.
Jacques Le Rider, maintenant, c'est l'auteur de la biographie de référence de Karl Kraus en 2018.
Karl Kraus produit une grande quantité d'aphorismes. Ça remplit presque 500 pages, tous les aphorismes réunis. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans la littérature européenne, cet art de l'aphorisme. Ce sont des traits d'esprit extrêmement réussis pour la grande majorité d'entre eux. Et puis, en même temps, ce sont de véritables explosions à la fois formelles et d'un contenu d'une grande profondeur.
Un peu comme les moralistes français, Chamfort.
Oui, mais Karl Kraus n'a pas ce classicisme pesé et parfois glacial des aphoristes français. Lui, il est très provocateur, très transgressif. Il lance ses aphorismes à la figure de ses lecteurs et de ses auditeurs, parce qu'il mettait quelquefois des cycles d'aphorismes au programme de ses lectures publiques. D'application, si j'ose dire, de ces aphorismes est très vaste. Ça va de la satire des journalistes jusqu'à l'érotisme.
La prostitution du corps partage avec le journalisme la capacité de ne pas devoir ressentir, mais possède sur lui la capacité de pouvoir ressentir. Quelle confiance accorder à une femme qui se laisse surprendre en flagrant délit de fidélité? Aujourd'hui c'est à toi, demain c'est à un autre qu'elle est fidèle. Elle se disait « coucher avec lui, oui, mais surtout pas d'intimité ». À toutes les affaires de la vie, la femme participe avec son sexe, parfois même à l'amour.
Alors on l'entend, les aphorismes de Kraus, le transgressif, contiennent davantage de venin que de morale. En tout cas, à l'époque où il les écrit, contemporaine de celle de l'envolée de Freud à Vienne, il prend un malin plaisir à secouer les mœurs bourgeoises. Il va par exemple défendre Oscar Wilde, condamné pour son homosexualité devenue trop visible. C'est d'ailleurs une occasion supplémentaire que ces aphorismes pour lui d'attaquer la grande presse, qui distille avec concupiscence toutes sortes de détails sur la vie privée de ses victimes. Il y aurait pourtant bien d'autres questions à poser que celles des procureurs du sexe, Georges Banu.
Il dit « La première lecture n'est qu'un voile qui recouvre la scène ». Et moi, quand j'étais jeune, j'avais lu une phrase, parce qu'il y a, dans la vie, vous êtes accompagné par des phrases, une phrase de Faulkner. Il dit « Monsieur Faulkner, qu'est-ce qu'il doit faire quelqu'un qui ne comprend pas vos romans ?» Et Faulkner dit, il faut qu'il les relise la deuxième fois.
C'est le sens de l'aphorisme. L'aphorisme, il faut y revenir.
En même temps, ce qui est assez beau, c'est qu'il ne plaide pas pour une langue pure, pour une langue qui est conservée comme un outil archéologique. Une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'est, il dit, « Seule une langue qui a le cancer peut communiquer des formations nouvelles. » Donc, c'est une langue qui est troublée de l'intérieur. C'est pas une langue en paix. Il a eu tenu en horreur la langue de la presse. Il dit, le journaliste est stimulé par l'échéance. Il écrit plus mal quand il a le temps. Donc, c'est la vitesse, la rapidité est presque la condition du journalisme. Mais quand il a plus de temps, il écrit mal.
L'idéal de la virginité est l'idéal de ceux qui veulent dépuceler. Ce serait une statistique intéressante. Combien de gens sont amenés par les interdits à les transgresser? Combien d'actes sont la suite des châtiments? Il serait intéressant d'apprendre si plus de détournements de mineurs sont commis en dépit ou à cause de la limite d'âge.
À minuit sonnant commence la fête, ma coupe s'arrête, on va sortir de jolis messieurs, des femmes charmantes qui viennent pimpanter pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes et bien entendu des rousses aussi. Les gens, les messieurs sont de tous les mondes, c'est même des laissés pour trouver ici. Oui, tout cela s'allie et se met en jouant, froufrou de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio de la bacchanale.
La grande spécialité viennoise, l'opérette, Karl Kraus considère que c'est de la foutaise, que c'est du kitsch, que c'est vraiment moins que rien. Et pire encore, il estime que c'est la perversion même de toutes les notions esthétiques, que c'est la musique et la parole sacrifiée sur l'autel de l'amusement et d'une légèreté complaisante. Il déteste, lui, sa conception de la comédie populaire, c'est Nestroyd ou Offenbach. Offenbach, il admire énormément Offenbach et pour lui, les opéras bouffes d'Offenbach sont des chefs-d'œuvre comparés à l'opérette viennoise dont le modèle remonte au Strauss père et fils, que paradoxalement Karl Kraus, qui est pourtant un grand Viennois dans toutes ses fibres, rejette passionnellement.
Ouf, c'est Offenbach qu'on a entendu un extrait de La vie parisienne. Il a aimé Paris, il y a fait des lectures publiques, Karl Kraus. Offenbach, c'est pour lui la culture populaire en ce sens qu'elle est partagée. Il y a d'un côté la culture partagée et de l'autre la culture commercialisée, descendue des cieux tarifaires, comme il dit. C'est pas ce qu'il attend du théâtre.
Le succès de Karl Kraus vient encore plus de la scène que de l'imprimé. Il s'y produit en de véritables one-man shows.
On va parler plutôt, si vous le voulez bien, de lecture publique pour respecter le vocabulaire de l'époque. Kraus donne la première en 1910 à Berlin. Alors il n'y résiste pas aux effets, aux excès, rien ne lui fait peur. « Moi, dit-il, je n'ai pas le trac, c'est le public qui devrait l'avoir. » Celui-ci vient nombreux, dans des salles, sans micro à l'époque, qui parfois peuvent accueillir 1500 personnes ou davantage. Alors les femmes du monde sont nombreuses, mais il peut tout aussi bien parler à une assemblée d'officiers de marine. Georges Bendu, après avoir cherché des termes de comparaison en France, Cocteau, le charmeur, Lacan en séminaire, Roland Barthes qui donnait à chacun l'impression d'être intelligent.
Il y a quelques jours, je me disais, 700e conférence, ça veut dire 2 ans et demi de conférences chaque jour. Donc dans toute la vie, bien entendu, mais c'est l'équivalent de quelqu'un qui a fait des lectures publiques, comme direct. Je pense que ça aussi, ça c'était son moteur. Il avait quelque chose d'extrêmement théâtral en lui. Il était Je lisais récemment la déclaration d'une actrice qui disait « Moi, je m'inspire de la salle. » J'aime beaucoup cette phrase, « Je m'inspire de la salle. » Et que lui, je crois qu'il s'inspirait de la salle, de la gens qui étaient là, et que bon, on voit pas Karl Kraus en train de parler devant une salle vide. Il y a une phrase de Brook qui dit à Grotowski, vous aimez faire de la recherche. Moi, j'aime bien faire de la recherche, mais avec du public. Donc, Kraus avait besoin du public, je crois. Moi, Grotowski m'a dit un jour qu'il a, il n'y avait aucun spectateur et il a dit aux acteurs de jouer pour lui. Il m'a dit, c'était le meilleur spectacle. Donc, Kraus, c'était l'homme qui avait besoin de ça. Mais c'est, quand on lit sur sa vie, moi, il était fondamentalement un solitaire. Disons, un solitaire sociable.
Solitaire sociable, passablement misanthrope aussi. Kraus, qui admire Shakespeare, se projette volontiers dans un de ses personnages, Timon d'Athènes, qui, convaincu d'être entouré de mensonges, se retire dans sa caverne. C'est en Timon de Vienne qu'il va considérer l'Empire austro-hongrois, qui va à sa perte en déclarant la guerre en 1914. Sa fresque sur le premier conflit mondial s'intitulera « Les derniers jours de l'humanité » et elle commence ainsi.
Acte 1er, 1914, Vienne, sur le Ring, devant chez Cirque, des drapeaux aux fenêtres. On acclame des soldats qui défilent. Agitation générale, des groupes se forment. Un crieur de journaux, édition spéciale. Un deuxième crieur de journaux, édition spéciale. Et deux communiqués autrichiens et allemands. Un manifestant se détache d'un groupe qui chante la marche du prince Eugène, criant sans cesse, le visage écarlate et déjà tout enroué.
À mort la Serbie! À mort! Hourra! Vive les Habsbourg! Hourra! Vive la Serbie!
Un intellectuel s'aperçoit de l'erreur, lui flanquant un coup dans les côtes. Mais qu'est-ce qui vous prend? Le manifestant, d'abord surpris, se ravit.
À mort la Serbie! À mort! Hourra! À mort les Habsbourg! La Serbie!
Dans un deuxième groupe, une prostituée a été entraînée dans la bousculade. Un voyou marche très près derrière elle et tente de lui arracher son sac. Le voyou criant toujours « Hourra! Hourra! Hourra la prostituée !»« Mais lâchez ça, espèce de bougeur! Lâchez ça ou je... » Le voyou, renonçant à son entreprise, « Pourquoi vous criez pas hourra? Et ça se dit patriote? Une putain, voilà ce que vous êtes. Dites-vous bien ça. Et vous êtes un pickpocket, dit la prostituée. « Non mais regardez-moi cette traînée, dit le voyou. » On est en guerre, dites-vous bien ça, une putain, voilà ce que vous êtes. Un passant, faites la paix, je vous en prie, faites la paix. La foule prêtant attention, une putain, qu'est-ce qu'elle a dit? Un deuxième passant, si je ne me trompe, elle a dit un truc contre la maison impériale. La foule, à mort, cognez-la! Mais la fille a réussi à disparaître dans un passage. Laissez-la filer, on n'est pas comme ça, nous! Oh, dis donc.
Et il a écrit ce texte fleuve. Ce texte fleuve qui, je pensais un peu, qui, certes, il est moderne, ça, mais il renvoie un peu à Wagner. Il disait, ce texte peut être joué sur une semaine. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas l'écho un peu de la tétralogie wagnérienne qui peut se jouer aussi sur une semaine? Parce que les derniers jours de l'humanité, pour Kraus, pouvaient être joués sur une semaine. Donc 600 pages. Et ce texte est un texte qui est, semble-t-il, Moi, je n'ai pas le savoir, semble-t-il, est entièrement issu de la presse. C'est une sorte, ça n'a pas l'air, mais c'est une sorte de précurseur du théâtre documentaire. Les Autrichiens reconnaissaient les événements dans les derniers jours de l'humanité et il n'a fait qu'introduire deux personnages qui sont un peu deux personnages antithétiques qui font le lien. Et je me suis rappelé que Gertrude Stein parle des pièces nouvelles qui sont, dit-elle, des pièces paysages, non pas des pièces basé sur l'intrigue, sur l'action, mais des pièces qui s'étalent. Mais les derniers jours de l'humanité, c'est plus qu'un paysage, c'est une sorte de fresque, c'est la tapisserie d'une époque.
Tapisserie d'une époque, théâtre documentaire, théâtre pacifiste aussi. Le texte a été redécouvert par le théâtre contemporain. Georges Banu n'a vu ni la version Lescaut par les comédiens français, ni entendu la version Taroni-Hummel pour France Culture, dont nous utilisons ici des extraits. Il se souvient, lui, de l'aventure au long cours réussie par le metteur en scène italien Luca Ronconi.
Luca Ronconi a monté les derniers jours de l'humanité. Et on n'en parle pas, on l'a oublié. Moi, même maintenant, je revis l'émotion, parce qu'il a fait les derniers jours de l'humanité dans les anciennes usines de Fiat à Turin. Donc c'est le dernier acte avant la démolition des usines. Donc on voyait le spectacle, on savait que le lieu allait être démoli, mais en même temps, chez Ronconi, on reconnaissait parfaitement Vienne. Ronconi n'avait pas actualisé la pièce. Ronconi, et c'était, il y avait le choc provenait de en plus, Ronconi, qui avait le génie des chœurs sur le plateau, il a accepté, il a traité les derniers jours de l'humanité comme la pièce était, comme le texte est écrit, c'est comme une œuvre chorale. Donc, cette œuvre chorale envahissait, occupait l'espace de Turin. Et je crois que ce qui était génial dans la mise en scène de Ronconi, c'était que il assumait les risques de Krauss pour l'écriture, les ruptures, ce que j'ai dit tout à l'heure, les différences de niveau.
Nous sommes maintenant dans les derniers jours de l'humanité en 1915.
Je n'ai que deux enfants qui, hélas, ne sont pas encore bons pour le service. D'autant plus qu'à notre très grand regret, l'un des deux est une fille. Il me faut donc avoir recours à un subterfuge en imaginant que mon garçon a déjà été au front et que, bien entendu, il y a trouvé la mort en héros. Car s'il en avait été autrement, par exemple, s'il m'était revenu indemne, j'en serais morte de honte. En aucun cas, je ne voudrais qu'il restât à l'arrière, bien que même là, une balle vienne facilement se perdre. Une ménagère allemande sait ce qu'en cette heure grave, mais non moins grande, elle doit à son mari. Bien sûr, mon époux a fait des manières parce qu'il ne veut pas ce pot aux œufs maison. Il n'y en a pas. Il a bien fallu qu'il se résigne. Pour dîner, aujourd'hui, comme tous les jours, le plat unique, mais pour changer, du pâté de foie à base de col d'amidon et des légumes colorés en rouge. Et nous allons aussi goûter à cette toutillette qui est sur toutes les lèvres. Un succès d'année d'œuf, le jaune instantané à base de craie gustative et de levure en poudre. Pour la table familiale allemande, le mieux est tout juste assez bon. Et nous avons tout. Ce n'est pas comme chez les pauvres. Pour le goûter, hier, mon époux a eu son eau de gland, qui est exquise.
En 1917, approche-t-on vraiment de la fin de la guerre? En tout cas, elle ne tient pas les promesses du commencement.
Le général Rümleben, lors d'une réunion sur la situation, a donné l'ordre catégorique d'abattre les prisonniers blessés sur le champ de bataille.
Rümleben agit conformément à l'adage de notre chef suprême. Pas de quartier, pas de prisonniers. D'autant que Sa Majesté a ordonné aussi de couler les navires hôpitaux. À terre, on ne va pas s'en laisser remontrer par la marine.
J'ai passé aux compagnies de bouche à bouche l'ordre donné aux brigades de liquider les prisonniers de guerre, mais nos gars hésitent sans arrêt.
C'est ce qu'on va voir. Tiens, voilà justement une occasion. Hé, hey, vous là-bas! Mais pas au courant de l'ordre de nos brigades.
Ah, ton bas, c'est toujours. Alors mon sang ne fait qu'un tour. De patriotes inébranlables, quoi bien garnir toutes les tables. Au front ne manque de rien du tout. L'Autriche Hongrie restera debout. Jamais ne vacillera le trône.
Mais pour les champs, pour monsieur quoi?
Là, peut-être la guerre se termine.
Ce brouhaha me dure le pin.
Pas toucher moins de 20 kilos de farine.
Encaissez vous les terres tartares. C'est à l'honneur de ces soifards. Si le bonhomme se trouve à sec, surtout je veux battre sans la malec. Un officier allonge les sous.
Avec Habsbourg restons debout. Avec Habsbourg restons debout.
Les Autrichiens dans cet état, c'est un scandale, on croit rêver.
On a bien le droit de rigoler.
Prince Eugène, t'es le rigole.
Prince Eugène, t'es le rigole.
L'Autriche-Hongrie restera debout.
Au lendemain de la guerre, on le sait, il n'y aura plus d'Autriche-Hongrie. Krauss ne regrette pas ce qui s'est ainsi perdu. Néanmoins, le monde d'après est pire que celui d'avant. Voilà par exemple que la presse, toujours elle, organise des voyages touristiques sur les champs de bataille.
Schlachtfeld der Rundfahrt im Auto, veranstaltet durch die Basler Nachrichten. Reklamefahrten vom 25. September bis 25. Oktober zum ermäßigten Preis von 117 Franken. Unvergessliche Eindrücke, keine Passformalitäten.
Circuit automobile des champs de bataille, organisé par le journal Die Basler Nachrichten. Voyage en promotion du 25 septembre au 25 octobre, au prix réduit de 117 francs. Impression inoubliable. Pas de formalité de passeport. Inscription chez nous en remplissant un simple formulaire. À recommander particulièrement comme voyage d'automne. Est-ce que la mission de la presse, d'emmener d'abord l'humanité et ensuite les survivants sur les champs de bataille, ne trouve pas ici une forme exemplaire? Vous recevez le matin votre journal. Vous apprenez 1,5 million de personnes ont dû verser leur sang, là où le vin et le café et tout le reste sont compris. Vous saisissez que la manifestation a eu lieu pour qu'au moins, quand rien n'est resté de la gloire que la faillite, un champ de bataille par excellence, existe. Vous comprenez que l'objectif valait bien le voyage en promotion et le voyage valait bien la guerre mondiale. Un copieux petit déjeuner dès lors que vous aurez pris la décision de prendre en supplément les champs de bataille de 1870-1871, prix forfaitaire. Vous avez, après le déjeuner, encore le temps d'assister à la livraison des dépouilles mortelles des corps non identifiés. Et après l'accomplissement de ce chapitre du programme, il vous restera encore envie de souper.
Jean Lebrun. Intelligence, service sur France Inter.
Vienne n'est plus que la tête hypertrophiée de la petite république atrophiée d'Autriche, mais aussi la citadelle du Parti social-démocrate. Krauss va un moment frayer avec les programmateurs culturels de Vienne-la-Rouge et faire des lectures publiques devant des parterres d'ouvriers. Et c'est un succès. Mais ce compagnonnage avec le Parti social-démocrate ne va durer qu'un temps. Le parti ne soutient pas Krauss quand un magnat de la presse, toujours la presse, l'attaque dans son histoire familiale et sa vie privée. Le Parti social-démocrate, en revanche, s'accommode d'un préfet de police, Schaubert, qui a fait tirer sur le peuple en juillet 1927, faisant 89 morts. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, l'expérience de la petite République d'Autriche tourne peu à peu à la guerre civile larvée. Et Krauss lâche définitivement le Parti social-démocrate quand celui-ci s'obstine jusqu'en 1932 à demander la réunion du pays à l'Allemagne.
Monsieur Lebrun, la question de l'absorption de la République d'Autriche par l'Allemagne se pose quand Hitler prend le pouvoir. Krauss est une des personnalités les plus importantes de Vienne. Beaucoup attendent ses prises de position. Comment peut-il être à la hauteur?
L'homme politique autrichien qui seul peut empêcher l'Anschluss que prépare Hitler dès sa prise du pouvoir, c'est, selon Krauss, le chancelier Dollfuss, un chrétien social, devenu chancelier à Vienne en 1932. Or, Dollfuss va instaurer une petite dictature pour faire obstacle à la grande. interdisant le Parti social-démocrate, surveillant la presse. Krauss l'approuve, il ne va tout de même pas soutenir les journaux qui méritent ce qui leur arrive.
Au fond, il était antidémocrate. Il était antidémocrate. Il dit, moi je ne suis pas contre les idées de dictature du nazisme. Ce qui est problématique, c'est que ces idées sont adoptées et pratiquées par une bande de idiots et de voyous. Donc, c'est l'exercice de la dictature qui l'énerve, mais pas l'idée de, d'un pouvoir fort qui impose ses conceptions, son programme.
C'est-à-dire qu'il va admirer Bismarck,
oui,
qui disait que le journalisme, c'était un métier manqué. Il va admirer François Ferdinand, qui aurait été un empereur fort s'il n'avait été assassiné. Il va admirer, enfin soutenir en tout cas, peut-être pas admirer, il va soutenir le chancelier Dollfuss, l'austrofascisme.
Exactement.
Ça ne le gêne pas.
Lui, ça, parce que justement, il considère que ces gens-là font un bon usage de la dictature. Tandis que les autres, c'est une bande de idiots et de voyous. Donc c'est cette tension-là qui de cette tension-là surgit, je pense, un peu l'inconfort. Ce dont il rêve, c'est l'exercice correct de la dictature. Okay. Et Bismarck, c'est pour lui la preuve de... Et c'est Bismarck qui a rendu à l'Allemagne la force, l'unité qu'il a imposée. Donc Krauss ne déplore pas, et Krauss est à côté de Dollfuss aussi.
On dirait qu'il défend le despotisme éclairé, sauf que il ne croit pas au progrès.
Voilà. Voilà, le despotisme éclairé, oui. Il n'aime pas le despotisme d'une bande de malfrats qui, au fond, détériore cette idée d'un pouvoir fort.
Oui, mais dans les années charnières 32-33, il peut donner l'impression à ses admirateurs de rompre le pacte qui les liait à lui. Parce qu'il semble devenu muet. Fin 32, un numéro triple de Die Fackel est paru, mais en 33, rien, sinon un numéro de 4 pages. Et le 888e, en octobre, alors qu'Hitler est au pouvoir depuis le début de l'année. Et le 889 ne vient qu'en juillet 1934, composé surtout d'appels pressants à Krauss, qu'il reproduit sans bien répondre. Les temps deviennent vraiment sombres, que dites-vous? C'est qu'en juillet 34, Dollfuss est assassiné pour le plus grand bénéfice de Hitler. Quand Krauss évoquera le chancelier mort dans ses lectures publiques, il demandera au public de se lever, quitte à n'être pas entendu. C'est qu'au public, il manque un maillon essentiel. En réalité, en 1933, Krauss s'était mis au travail. Il avait écrit d'un jet un livre entier destiné à dévoiler, à analyser par le menu les crimes du nazisme en utilisant ce qui était disponible à chacun s'il voulait bien lire et voir. Jacques Le Rider.
En tant que document, cette troisième nuit de Walpurgis est importante parce qu'elle montre que pour quelqu'un qui voulait savoir et qui était capable de savoir, c'est-à-dire qui ne se défendait pas contre la réalité, qui n'était pas installé dans un déni rassurant de la réalité, il était possible de savoir sinon tout, en tout cas presque tout, et que la plupart des discours de disculpation qui consistent à dire « mais on ne savait pas, mais si on avait su, bien sûr qu'on aurait agi autrement », que ces discours-là sont tout simplement mensongers, que les gens qui ne savaient pas sont... aussi et surtout des gens qui ne voulaient pas savoir, c'est ce que démontre ce grand texte de Karl Kraus. En effet, Karl Kraus a lu une quantité prodigieuse de journaux, de revues, mais aussi de livres, de brochures politiques. Il s'est renseigné, il a parlé avec des gens qui avaient séjourné en Allemagne à ce moment-là, des gens qui avaient été arrêtés, relâchés. Il avait une somme étonnante d'informations qui, je le redis, prouvent que quelqu'un qui cherchait à savoir arrivait à presque tout savoir.
Le docteur Ernst Eckstein, l'un des premiers fonctionnaires politiques à être placé en détention de protection, avait du mal à se faire aux conditions de détention. On avait fait circuler le bruit que ces conditions étaient les suivantes. Travail forcé, coup de crosse, coup de fouet sur le visage, absorption d'huile de ricin, participation à des chœurs parlés et autres malentendus. Mais il y avait aussi de temps en temps des tours en ville dans un petit chariot avec, dit-on, des combattants nationaux en train de chanter des tyroliennes tandis que d'autres spectateurs, bouleversés, pleuraient. Il y a 15 jours, il était occupé à des travaux pour le camp de concentration de Breslau. Mais, comme ça arrive, et en dépit de ce genre de passe-temps, il s'est laissé aller à la mélancolie, tendance naturelle chez lui. Et, dans un accès de dépression, il s'est suicidé dans sa cellule. À la fin, il refusait de prendre toute nourriture, de sorte qu'on était obligé, on voulait le maintenir au sein de la vie et du travail, de le nourrir artificiellement. On fit l'impossible. On appela des médecins. Ils en ont conclu que son décès était dû d'abord et avant tout à une démission volontaire qu'il préférait, hélas, aux missions plus importantes qui l'attendaient. Comble de la fantaisie de l'horreur, on l'avait transporté de Breslau à Hulls, où, pendant des heures, on l'a battu jusqu'à lui faire éclater les poumons et les reins. Il a gémi pendant toute la nuit. On a dit que, manifestement, il n'avait plus toute sa tête. On l'a emmené chez sa malheureuse mère, elle l'a fait transporter à l'asile. C'est là qu'il est mort peu après.
Maintenant qu'on peut lire cette troisième nuit de Walpurgie, on mesure combien l'opposition de Kraus au nazisme était entière. Elle ne s'exprimait pas au nom de la démocratie, mais seulement au nom de l'humanité. Il comptait les vies humaines déjà sacrifiées, il anticipait les crimes à venir. Il protestait aussi au nom de la langue. C'est en outrageant sans cesse les mots que les nazis amenaient la mort. Mais alors que le livre était déjà composé à l'imprimerie, qu'il avait corrigé l'essentiel des épreuves, Kraus a renoncé à le publier. Craignait-il les représailles, les nazis pouvant agir à l'extérieur de l'Allemagne? Il était l'homme de la provocation, mais le courage lui avait-il manqué? Avait-il conscience aussi que ses armes n'étaient plus efficaces? Fut-il pris de désespoir devant l'inefficacité de son pouvoir? En tout cas, il perdit ce qui lui en restait auprès de l'opinion. En 1936, en février, il est renversé par un cycliste et sa tête tombée sur le pavé, sa santé se dégrade soudain. Il donne encore 4 lectures publiques, dont la 700e, mais devant des auditoires maintenant restreints. Die Fackel connaît pour la première fois de réelles difficultés financières. Il meurt le 12 juin 1936 dans son appartement de Vienne.
Dès les lendemains de l'Anschluss, un commando est venu défoncer l'appartement de Karl Kraus, a tout dévasté. Les témoins se rappellent que les livres de la bibliothèque de Karl Kraus étaient jetés sur le trottoir, mis en lambeaux, et tout ce qui pouvait avoir aux yeux de ces voyous nazis et de leurs auxiliaires autrichiens, la moindre portée politique était évidemment confisquée, détruite. Donc tout ce qui restait dans l'appartement de Karl Kraus au lendemain de l'Anschluss a été anéanti. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a tout perdu de sa bibliothèque, et c'est bien dommage parce que il utilisait beaucoup certains livres qu'il avait remplis d'annotations. L'appartement de Karl Kraus a été dévasté, mais l'imprimerie de Karl Kraus, celle à qui il confiait ses manuscrits et qui conservait beaucoup de manuscrits de Karl Kraus, a été elle aussi complètement dévastée et détruite par ses commandos nazis. Et donc, c'est grâce à ces admirateurs et admiratrices de Karl Kraus, quand ils ont pu fuir à l'étranger, c'est grâce à eux que cette œuvre ultime a été sauvée et a pu être publiée. Le sauvetage de ces manuscrits de Karl Kraus est un des miracles un peu consolants de cette époque.
Remerciements à Jacques Le Rider qu'on vient d'entendre, auteur d'une biographie de Karl Kraus au Seuil en 2018. Remerciements aussi à Georges Banu. Les lectures Grégoire Roqueplot, Anne-Cécile Perrin, à la prise de son Johan Vincent, à la maison de la radio et de la musique Tar Bouklifa, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, bien Audrey Ripouille qui a passé le flambeau, que dis-je, la torche, dit Fackel, à Étienne Bertin.